Gloire à Dieu, notre exhortation de ce matin a pour titre un front en diamant. Et nous allons voir là où on en parle en lisant Ézéchiel chapitre 3 du verset 4 au verset 20. Ézéchiel chapitre 3 du verset 4 au verset 20.
Il me dit: Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face, j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille des rebelles. Il me dit: Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte.
Voilà, nous nous arrêtons là pour le moment. Dieu dit à Ézéchiel: je te donne mes paroles, va parler aux enfants d'Israël. Je sais que c'est des rebelles, mais parle quand même. Je sais qu'ils ont un front endurci, comme de la pierre, comme le rocher, comme un rocher. Mais moi, je ferai que ton front à toi soit comme du diamant. Vous savez, pour tailler la pierre, on utilise des pièces qui ont comme bout, au bout de ces pièces-là, au bout de ces tiges-là, il y a des morceaux de diamant, parce que le diamant est tellement dur qu'il peut casser, tailler n'importe quelle autre matière. Donc on utilise des pièces métalliques qui ont des bouts de diamant pour creuser, pour tailler la pierre. Et donc, puisque eux, ils ont un front dur, un front endurci comme de la pierre, moi, je vais te donner à toi un front en diamant. C'est ça notre thème. Les humains sont comme ces enfants d'Israël dont on vient de parler. Ils sentent bien quelle est la volonté de Dieu. C'était pareil que les enfants d'Israël. Ils savaient bien quelle était la volonté de Dieu, mais ils s'étaient endurcis dans leur raisonnement et leur logique. Et ils sont devenus des rebelles, des enfants de la rébellion. Et maintenant, leur front était tellement endurci que peu de gens de vérité arrivaient à faire face à eux. C'est pourquoi Dieu dit à Ézéchiel: je rendrai ton front comme du diamant, comme un diamant. Ça sera plus dur. Ne crains pas. Va les affronter. C'est ce que Dieu veut dire aux chrétiens de notre époque. nous n'avons pas à craindre. Dieu peut nous donner un front en diamant. Vous savez, les gens qui résistent à la parole ont un front en pierre, endurci. Ça donne l'impression que c'est sans espoir. Les chrétiens se sentent comme étouffés par trois choses. Par des gens qui se moquent de Dieu, qui considèrent que parler de Dieu, c'est comme si on parlait des insectes. C'est comme si on parlait des insectes même nuisibles. Ils se moquent. Ils trouvent ça simple, trop simple. Deuxièmement, ils résistent. Ils ne veulent pas écouter. Lorsqu'ils entendent parler de Dieu, ils ferment leur cœur. Ils veulent, vous savez, il y a des gens qui laissent quand même les choses se faire et prendre une décision. Mais les gens de notre époque, comme les gens auxquels faisait face Ézéchiel, mais c'est des gens qui résistent, qui ne veulent même pas écouter, qui bloquent tout de suite. Troisièmement, c'est des gens qui ont eux-mêmes leur logique, leur doctrine, leur façon de voir des choses auxquelles ils croient tellement que ça devient comme un roc, comme de la pierre, et qui veulent l'imposer maintenant aux enfants, à tout le monde. Et ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on leur parle de Dieu, mais eux, ils veulent parler de ce qu'eux, ils pensent. Et ils ont tellement une conviction, tellement une force dans ça, qu'ils veulent l'imposer à tous. C'est les trois tendances auxquelles fait face le chrétien aujourd'hui. Les moqueries, la condescendance des humains concernant Dieu. On se dit, oh, ça c'est des trucs des arriérés, des gens qui n'ont pas fait l'école, des gens qui des pays sous-développés. Et il y a la résistance, le refus même d'écouter. D'emblée, il se ferme. Et troisièmement, il y a la volonté d'imposer leur religion à eux, leur façon à eux de voir les choses. Ils ne se contentent pas de résister à Dieu. Ils ne se contentent pas d'avoir des positions anti-Dieu. Ils veulent l'imposer. Et face à ça, les chrétiens d'aujourd'hui ont tendance à se cacher parce que la pression est trop forte. Alors Dieu dit à Ézéchiel, pas question, c'est moi le Tout-Puissant, tu es mon serviteur. Moi, je te donnerai un front en diamant. Tu n'as pas à te cacher. Tu n'as pas à te cacher. Tu dois vivre l'Évangile et tu dois vivre ma parole clairement et l'annoncer clairement selon mes instructions. Tu n'as pas à te cacher. Et Dieu dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, toi, tu n'as pas à te cacher. Toi, tu dois obéir à mes instructions et annoncer ma parole. Bien-aimés, c'est ce que nous voulons partager ce matin. Nous n'avons pas à nous cacher. Nous n'avons pas. Je ne suis pas en train de parler de faire de la propagande. La propagande, c'est vouloir crier ce que tu crois. Non, il est écrit dans Ésaïe 42, mon serviteur ne criera pas. Mais nous devons parler au moment où nous sommes poussés à parler sans crainte. Ce n'est pas de la propagande, c'est l'annonce. Parce que les gens disent, pourquoi vous mettez des affiches? Nous annonçons, nous ne faisons pas la pub. Nous annonçons ce qui est vrai. Quand les gens font des affiches pour parler du dépistage du cancer du sein ou d'autres cancers, est-ce qu'ils font de la propagande? Non, ils annoncent qu'il y a une maladie qu'on appelle cancer dont on peut se prémunir en faisant des tests précoces. C'est de l'annonce. Et il y a une telle pression que les chrétiens n'ont même plus le courage de faire ces annonces-là. se disent, bon, je vais être considéré comme un simplet, comme un half-wit, comme on dit en anglais, donc quelqu'un qui est moitié-moitié. C'est ce contre quoi nous voulons prêcher aujourd'hui, cette attitude à se comporter comme des tortues, à vouloir se cacher dans sa carapace. C'est ce que certains chrétiens d'aujourd'hui ont pris comme attitude. Bien sûr, il y a l'inverse qui est enfantin, la propagande. Il y a des chrétiens qui sont dans la propagande. Ils citent le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Mais leur vie même ne correspond pas au Seigneur. On ne parle pas d'eux. Ce n'est pas ce qu'on veut encourager. Nous, on veut encourager une vie libre où tu vis librement ce que tu crois. Tu vis librement l'évangile. Et en même temps, tu peux parler quand l'esprit t'y pousse sans te refréner parce qu'il y a la pression du rocher, des cœurs endurcis à l'extérieur. Et Dieu dit à Ézéchiel, je rends ton front comme un front de diamant. C'est ce que nous croyons aujourd'hui. Le Seigneur va nous donner des fronts en diamant et nous pourrons faire face pendant la famille. Dans la famille, nous pourrons faire face en disant, moi je prends telle position parce que je crois en Dieu, parce que j'ai confiance en Jésus. Il y a des gens qui ne veulent pas dire pourquoi il prend une position dans la famille. Parce que s'il cite le nom de Jésus, ça va créer des problèmes. Voilà. Et ou bien au travail, il faut dire telle position, je la prends parce que je crois en Dieu. Et ce n'est pas une technique que j'énonce. On peut aussi tout simplement dire, moi je ne peux pas faire telle chose, c'est tout. Prendre position, sans forcément citer le nom de Jésus, mais apprendre à prendre position. Dire, voilà ma vie, comment elle doit être menée. Arrêtez de se cacher comme des tortues. Non. Je te donnerai un front en diamant, le Seigneur dit à Ézéchiel. Et au verset 10, il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers eux, les enfants de ton peuple, tu leur parleras. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ça nous pousse à ne pas chercher des résultats. C'est parce que parfois, nous entrevoyons que les résultats seront très minces, nous préférons nous taire. Nous supposons qu'il n'y aura pas de résultat, nous préférons nous taire. Dieu dit non, je ne t'envoie pas pour produire du monde, pour produire des résultats. Je t'envoie pour annoncer ce que je veux que tout humain sache, que j'existe, c'est moi le Créateur, et que tout homme doit se soumettre devant moi, devant le Fils, devant l'envoyé que je leur ai donné, Jésus, pour les sauver. C'est lui le canal. Voilà, c'est ce que nous devons annoncer. Et beaucoup de chrétiens sont déstabilisés devant une telle pression où on veut nous imposer à admettre que devenir, changer de genre, c'est normal. On veut nous imposer à admettre que le mariage homosexuel, c'est normal. Et les gens, devant une telle pression, ils capitulent. Ils fonctionnent comme des tortues. Vous savez, une tortue est toujours une tortue, même quand elle rentre sa tête dans la carapace. Sauf que c'est un symbole de peur. Tu n'affrontes pas les choses. Tu ne tiens pas ta position. Et c'est ce que nous voulons dénoncer et nous voulons que les chrétiens se ressaisissent, soient heureux d'être chrétiens, vivent leur foi librement et parlent quand ils sont poussés à parler librement. Chantent pour le Seigneur quand ils sont poussés à chanter librement, comme notre ami Daniel, lorsqu'il a entendu qu'il y avait une instruction à ne prier aucun autre dieu à part Darius. Il est écrit que Daniel a continué à prier comme d'habitude, devant sa fenêtre ouverte. dirigé vers Jérusalem, de sorte que les gens pouvaient le voir continuer toujours de prier, pouvaient l'entendre et le surprendre, et le saisir. Il n'a pas changé, il n'a pas mis la tête dans la carapace. Il est resté lui-même, tel qu'il priait avant, tel qu'il a continué à prier. C'est ce que le Saint-Esprit nous demande aujourd'hui, de revêtir, de recevoir ce front en diamant et de vivre librement notre foi, librement. Et il y a d'autres passages que nous allons lire, mais quand nous arrivons au verset 12, « Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. » Donc, quand Dieu lui parle, il entend que derrière la voix de Dieu, il y a la voix d'un grand tumulte, donc d'une multitude d'anges qui disent « Béni soit la gloire de l'Éternel ». Des anges, des êtres qui nous surpassent en beauté, puissance, force, en gloire, mais eux, ces êtres se prosternent devant Dieu. Ils reconnaissent la grandeur de Dieu. Ézéchiel entend ça. Vous vous rendez compte, c'est ce Dieu-là qui nous envoie. C'est ce Dieu-là qui est notre Père. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. Et nous voulons donc mettre la tête dans la carapace. Pas question, bien-aimé. L'esprit de sauterelle, nous refusons ça. L'esprit de sauterelle qui a fait que les enfants d'Israël ont eu peur de conquérir la terre promise parce qu'ils ont dit, les gens qui y sont des géants. Nous sommes à nos yeux, comme à leurs yeux, comme des sauterelles. Et c'est cet esprit qui anime beaucoup aujourd'hui. Ils ont une logique de sauterelle. Ils considèrent que ce qui se passe dans le monde est supérieur. Ils ne le disent pas, mais ils le vivent comme tel. C'est comme si ce qui se passe dans le monde est supérieur à Dieu. Ah oui, comment on va faire pour manger? Mais comment toi, un chrétien, tu vas dire comment on va faire pour manger avec toutes les promesses que tu as dans la Bible? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Comment? Demandez et vous sera donné. Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez. Il vous sera donné, ainsi votre joie sera parfaite. Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir. Donc il y a des gens qui se laissent impressionner par ce qu'on entend dans les crises énergétiques, crise de ceci, crise de cela. Mais non, nous avons un Dieu dont les anges disent « Béni soit la gloire de l'Éternel ». Un tumulte, une louange extraordinaire. Nous ne devons pas courber les chines devant les mauvaises nouvelles. Psaume 112, verset 7. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il tient ferme dans la foi puisque Dieu est au-dessus des mauvaises nouvelles. Que tout esprit de sauterelle soit chassé au nom de Jésus-Christ. Nous devons revêtir le courage de Josué, de Caleb. Ils ont dit, oh, mais comment vous craignez ces géants? Notre Dieu est plus grand que ces géants. Il nous a délivrés de l'Égypte. Est-ce que c'est ces géants-là qui vont nous empêcher de conquérir la terre promise? Allons-y, notre Dieu nous donnera la victoire. Ils n'ont pas dit que c'est leur stratégie qui leur donnera la victoire, mais c'est Dieu qui leur donnera la victoire. Le chrétien qui a un front en diamant, il est conscient de qui est Dieu. C'est pourquoi nous disons, nous rejetons toute forme de propagande, de gens qui crient « Jésus, 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 Jésus » et qui tremblent concernant le manque d'argent, qui tremblent face aux grands de ce monde, qui tremblent face aux mauvaises nouvelles. Ça, c'est de la propagande, c'est la pub. Vous voyez, quelqu'un peut avoir des mauvais cheveux, mais faire la pub d'un produit comme si le produit a transformé ses cheveux en des beaux cheveux, mais ça a été embelli comme ça pour la pub. Mais nous, nous ne voulons pas faire de pub, ni de propagande, nous voulons dire la vérité. La vérité, c'est que notre Dieu est le plus grand. Il est tout puissant, il sait tout, il est tout, c'est la source de tout. Et nous refusons de mettre notre tête sous la carapace, nous voulons vivre librement en enfant de Dieu. Car le monde a besoin de voir des enfants de Dieu pour venir à Dieu, pour être en paix. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Si les enfants de Dieu se cachent, comment le monde va vivre? Le monde sera détruit. Nous prêchons ce matin la résurrection. Nous prêchons ce matin le fond en diamant. Ce que Dieu dit à Ézéchiel, il nous le dit aujourd'hui, vu la pression ambiante, que ce soit au travail, partout, la sophrologie s'installe. Il faut que les chrétiens disent « Je n'en veux pas ». Nous n'avons pas à nous cacher. Un front en diamant. Voilà ce à quoi Dieu nous destine. Vivre librement. Dans la connaissance, parce qu'il dit, tu prends mes paroles. On va voir ça avec Jérémie aussi. Dans la connaissance de Dieu. Lisons le verset 1 à 3, d'Ézéchiel 3 toujours. 1 à 3, pour comprendre ce qui précède ce qu'on vient de lire.
Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel.
Amen. C'est quoi le rouleau? C'est le rouleau de la parole. À l'époque, il n'y avait pas de livre comme nos livres. Ça n'existait pas. Ça, c'est venu avec l'imprimerie, avec Gutenberg, au 16e siècle. À l'époque, c'était des rouleaux, les Écritures. L'ange dit à Ézéchiel, mange. Mange la parole. Mange les Écritures. Et maintenant, tu pourras parler. Qu'est-ce que nous avons dénoncé tout à l'heure? La propagande. La propagande, c'est parler des choses sans être soi-même convaincu parce que tu es entraîné par quelque chose. Mais là, on te dit, mange d'abord la parole. Nous devons nous-mêmes manger cette parole, réaliser qui est notre Dieu, réaliser le ciel, réaliser la puissance de Dieu, réaliser l'amour de Dieu. Réaliser la bonté de Dieu. Donc toi-même, tu manges, tu sais de quoi tu parles après, parce que toi-même, tu as mangé ça. Tu as mangé cette parole, tu as mangé Dieu. Et tu sais qu'est-ce que tu présentes. Ce n'est pas de la propagande parce que ta famille est chrétienne. Ce n'est pas de la propagande parce qu'un jour, tu t'es baptisé. Non, c'est quelque chose que tu sais, c'est dans tes entrailles. C'est écrit, il a mangé, c'est entré dans ses entrailles. C'est écrit... Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. Mange la parole au point que ça entre en toi. Jésus a dit, quiconque veut entrer dans le royaume de Dieu doit me manger. Donc nous devons intégrer sa parole au point que ça entre en nous comme une nourriture. Parce que quand on mange la nourriture se désintègre, se répartit dans notre corps pour nous donner la force, la vie. Mais c'est pareil avec la parole. Mange la parole. Lis-la, saisis toi-même les bienfaits qui y sont. Saisis toi-même la vie qu'elle dégage. Et là, que personne ne te freine. Tu reçois un front en diamant pour pouvoir faire face à ce monde qui devient de plus en plus pourri. Mais quelle que soit sa pourriture, du moment que nous sommes ici sur terre, nous sommes les plus forts. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Bien-aimés, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors pourquoi se comporter comme des tortues, comme des sauterelles? Non. Ils vont chercher à nous dévier, à nous mettre toute forme de pression, toute forme de proposition pour diminuer la qualité de la parole. Nous devons résister à cela avec un front en diamant. Et donc du coup, quand eux, ils vont venir avec leur front en pierre, en rocher, en roc, eh bien, ça va rencontrer un front en diamant. C'est eux qui céderont. C'est ce qu'on va lire dans Jean 15, Jérémie 15. Jérémie 15, 16 à 21.
J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents.
Oh, amen, 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 amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de bronze. Une forte muraille, mais maintenant de bronze. Verset 19, mais c'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ce n'est pas à nous de retourner vers le monde. Ce n'est pas à nous de retourner vers le peuple qui se perd par manque de vérité. C'est à eux de venir vers nous. Nous devons tenir ferme. Mais Jérémie dit, Seigneur, j'ai dévoré tes paroles. C'est ce que nous avons dit précédemment. Il faut d'abord commencer soi-même par manger Dieu, par manger la parole de Dieu. Que ça soit vous avez vu quand Ézéchiel a mangé, il a dit quoi? C'était doux comme un du miel. Donc ça te fait du bien. Tu réalises combien Dieu est grand. Tu réalises combien Dieu est bon. Et c'est la même chose que Jérémie dit. Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Donc il a expérimenté ce que la parole pouvait produire dans le cœur, dans l'âme. Ça te connecte au ciel, ça te connecte à Dieu, ça te connecte à la vérité. Tu vois les choses clairement. Tu es bien. Sauf que, ben, tout ça est suivi, parce que si vous lisez tout du côté d'Ézéchiel, vous allez voir qu'à un moment donné, il est aussi irrité. Tout ça est suivi de la persécution après. Tout ça est suivi des combats contre les démons. Tout ça est suivi de la haine des humains. Et c'est ce que Jérémie dénonce au verset 18 quand il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Il dit, mais ça fait la joie de mon cœur. Mais depuis que je me suis attaché à ces paroles, depuis que je me suis attaché à toi, ma souffrance est continuelle. Persécution sur persécution. Flèche démoniaque sur flèche démoniaque. Je fais comment, Seigneur? Au point que ça pousse au découragement, à un comportement de sauterelle ou de tortue. Mais Dieu lui dit, attends, verset 19, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ces deux phrases qu'on vient de lire, Jérémie, si tu vas à fond dans ce que tu as reçu, tu verras. Tu seras fort. Le problème, c'est quoi? C'est que au début, nous recevons la parole, nous sommes bien, nous sommes heureux. Nous avons découvert la vérité. Mais quand viennent les persécutions, les intempéries, les contradictions apparentes, c'est-à-dire que tu as demandé quelque chose que la parole t'autorise à demander, mais que tu ne reçois pas, quand des choses comme ça arrivent, des incompréhensions sur Dieu. Vous vous souvenez, Jésus a dit, quand il a dit qu'il fallait le manger, les gens ont dit, mais non, ce n'est pas normal. Il veut nous transformer en cannibales. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont quitté. Quand survient de telles choses où tu as l'impression que Dieu se trompe, quand vient, c'est des souffrances continuelles. D'un côté, il y a les persécutions, les attaques, les séductions, les tentations. Et de l'autre côté, il y a parfois Dieu que tu ne comprends pas. La souffrance devient continuelle. Mais Dieu dit, quand c'est comme ça, va à fond. Verset 19, il lui dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, donc si tu vas à fond, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc, même quand nous avons choisi Dieu, nous pouvons traîner encore des choses qui sont viles, donc des choses qui sont inutiles, des choses qui nous éloignent de lui. Les traîner quand même, puisqu'on est dans l'humanité, on est dans le monde. Et Dieu dit non, il faut que tu sois à fond. Les choses viles, les choses inutiles, tu dois les écarter, puisque ça t'empêche d'être à fond avec moi, de te rattacher, d'être à fond. Si tu es à fond, Jérémie, verset 20, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de bronze. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas à fond. Ils choisissent, ils ont découvert la vérité, ils sont contents. Ils choisissent Dieu, mais ils traînent encore quelques casseroles avec eux. Et du coup, ils traînent encore une certaine fierté d'être le premier de classe. Ils traînent encore une certaine fierté d'être le plus beau, la plus belle. Ils traînent encore voilà, un certain amour pour les vêtements. Ils traînent encore. Voilà. Et du coup, dans tout ça, quand il va y avoir Dieu qui ne nous... Parce que Dieu, il ne va pas nous suivre dans tout ça, hein, dans tout ce qui est vil. Mais nous, on va prendre ça pour une sorte d'échec. Parce qu'il a dit tout ce que je demande. Il a dit qu'il est avec moi. Mais comment je suis malade alors? Donc, il traîne encore certaines notions, certaines logiques du monde concernant Dieu. Au lieu de se focaliser sur ce que Dieu lui dit lui-même dans la totalité, dans la parole. Ils ont pris quelques versets, ils en ont fait leur dogme, leur doctrine. Oui, mais Dieu nous a promis ceci, Dieu nous a promis cela. Mais oui, mais il faut lire tout. Dieu a promis tout ça, mais son fils s'est retrouvé à la croix quand même. Hein. Oui, mais après, il y a eu la résurrection. Voilà, il y a tout un ensemble qu'on doit lire sur Dieu. Et donc, les chrétiens, devant tout ça, les difficultés, les pressions, les tentations, ensuite, les contradictions apparentes avec Dieu, eh bien, ils gardent l'étiquette, mais ils ne sont plus sûrs. Ils ne sont plus fermes. Ils ne sont même plus heureux. Vous voyez, Jérémie se plaint, il n'est plus heureux là. Il dit, ma souffrance est continuelle. Ça ne marche, c'est une façon de dire, ça ne marche pas. Le système de Dieu ne marche pas. C'est ce qu'il veut dire. Moi, j'ai trouvé que c'était beau, c'était vrai, mais ça ne marche pas puisque ma souffrance est continuelle. Dieu dit, c'est faux. C'est toi qui dois séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu dois aller à fond. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est allé à fond dans un sport, dans un instrument de musique? Prenons plus l'exemple d'un instrument de musique. Quand vous entendez que quelqu'un fait 25 ans de piano, et quand vous le voyez jouer, vous avez l'impression qu'il y a une fusion entre les touches du piano et lui-même. Nous ne parlons pas de 25 ans comme certains d'entre nous, comme moi par exemple. Je peux dire que j'ai fait 20 ans de guitare, mais oui, mais jouer seulement peut-être le dimanche et le samedi. On ne parle pas de ce genre de personnes-là. On parle des gens qui travaillaient chaque jour pendant 20 ans, 25 ans, qui vont à fond. Quand tu les vois jouer, tu as l'impression que les doigts et l'instrument, c'est le même corps. Parce qu'il est parti à fond. Mais quand tu nous vois nous jouer, nous, tu as l'impression qu'on saute. Mais eux, quand ils jouent, tu as l'impression que ça coule. Ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un va à fond, il en tire aussi le meilleur. Dieu dit à Jérémie, va à fond, mon ami. Tu veux tirer le meilleur. Tu veux réaliser la supériorité, ma gloire. Va à fond. Délaisse les choses, Phil. Voilà ce que nous voulons dire à tous ceux qui ressentent comme Jérémie qu'on dirait que ça ne marche pas. Je sais que c'est vrai, mais on dirait que ça ne marche pas. Les difficultés s'amoncellent. Dieu nous dit, mais calme-toi, va à fond. Tu verras que tu seras une muraille de bronze. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu t'attaches à moi, tu verras ma gloire. Jésus a mis 3 ans pour amener les disciples à fond. Pendant 3 ans, avec les prédications, les événements, les miracles, il a mis tout un circuit de travail pour qu'à la fin, avec la mort à la croix de Jésus, quand il ressuscite, oh, les disciples sont à fond. Ils sont à fond. Tu pouvais leur proposer 1 milliard, ils vont choisir toujours Jésus. Ils allaient choisir toujours Jésus. Ils étaient à fond maintenant. Ils vivaient pour lui. Quand on leur a dit, vous ne parlez plus de cet homme-là. Pierre a dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors, bien-aimés, nous venons maintenant sur le fait des choses. Bon, tu vas avoir honte de Dieu par rapport au monde. Eh bien, qu'est-ce que le monde t'apporte? Qu'est-ce que le monde propose aux gens? Vous savez ce que le monde propose aux gens? Il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo hier d'une fille de 23 ans en Belgique. Une fille, c'est bien précisé, en bonne santé, mais qui a été euthanasiée. Euthanasiée pourquoi? Parce que le monde ne pouvait pas lui trouver de solution par rapport à sa souffrance, dit-on, psychique. Elle avait assisté à l'attentat, à un attentat en Belgique. Depuis qu'elle a vu cet attentat en 2016, Elle souffrait psychiquement, elle a tenté plusieurs fois de se suicider. Et qu'est-ce qu'on finit par lui proposer? Qu'est-ce qu'elle finit par chercher? L'euthanasie. Donc le monde n'a pas de solution. Dans une langue en Afrique, on dit le monde ne donne pas de salaire. Le monde ne donne pas de salaire. Le monde te tuera. Maintenant, nous avons honte de nous comme si de l'autre côté, il y avait quelque chose. Non, de l'autre côté, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il propose pour cette fille-là? Ben, l'euthanasie. Vous vous rendez compte, une fille de 23 ans euthanasiée. Comme j'ai l'habitude de dire, heureusement qu'il n'y a pas un verset où Jésus a donné un coup à quelqu'un. Parce que s'il y avait un verset comme ça, on aurait pris nous tous prétexte sur ça pour aller devant les gens qui prennent ces décisions-là. Tu donnes un coup, tu dis c'est par la parole de Dieu. Ça énerve. Comment on peut perdre une fille comme ça de 23 ans? Parce que le monde n'a rien à proposer. Mais nous avons quelque chose à proposer. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il a rencontré un homme qui était en train de dormir dans les cimetières, qui était devenu fou, qu'on enchaînait. Il a chassé plus de 5000 démons qui étaient en lui. Cet homme est devenu normal, évangéliste. Voilà ce que Jésus peut faire. Nous avons quelque chose à proposer. Que finalement, pourquoi nous avons honte? Pourquoi nous avons honte d'affirmer clairement que le rap chrétien, c'est les choses du monde? C'est des choses du monde. Dernièrement, il vient de faire la démonstration d'un certain Kirk Franklin. Ils ont fait le débunkage, comme on dit aujourd'hui, de l'un de ses chants. Ils ont décortiqué son chant. Ils ont entendu qu'il disait clairement que que l'agneau qui est lion en même temps, c'est-à-dire Jésus, doit se prosterner devant le goat, le bouc, donc c'est-à-dire Satan. Mais c'est un chanteur officiellement chrétien. Mais quand nous disons aux gens, c'est des escrocs, c'est des satanistes, ah non, mais tu exagères, non. Nous savons reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. Malheureusement, les chrétiens traînent encore. Bien-aimés, comprenons-nous. Quand nous nous sommes convertis, nous avons dit quoi? Que Dieu nous a sauvés du monde. Maintenant, quand je vois un chanteur chrétien faire un clip où il est en short de boxeur, dans un ring en train de faire un combat de boxe. Bon, moi, Dieu m'a sauvé de ça. Vous voulez que je dise oui, c'est le christianisme. Vous voyez, c'est une question de cohérence. Comprenez-nous aussi. Parce que les gens veulent que nous les comprenions. Ah oui, mais c'est pas grave. Mais oui, mais comprenez-nous aussi. Nous, on a sauté de joie quand Dieu nous a sortis de tout ça. On a dit, ah, enfin libre. On avait parfois une façon de marcher où le pied, finalement, ma jambe est devenue plus courte l'autre à cause de cette façon de marcher dans le monde. Maintenant, quand Dieu te sort de ça, tu es content. Maintenant, quand tu vois maintenant des chrétiens marcher comme ça, tu dis, mais c'est pas grave, vous exagérez. Non, nous n'exagérons pas, nous ne voulons pas retourner. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? C'est à eux d'aller vers toi. Ce n'est pas à toi de retourner là-bas. Nous ne voulons pas. Qu'est-ce que le monde donne? Qu'est-ce que le monde a donné à la reine d'Angleterre? Bien-aimé, je préfère encore être pauvre, je meurs, je ne regrette rien. Mais quand tu as 95 ans, 90 ans, tu as des milliards dans ton compte bancaire, tu as des propriétés, des terrains dans les pays occidentaux, ce n'est même pas dans des pays reculés, on peut dire, bon, mais non, en Angleterre même, tu as des propriétés, des châteaux. Et quand tu as des... Vous savez, le restaurant là qu'on voit sur l'Internet, là où on te sort les ribs, le monsieur, là, le cuisinier, il sort chaque rib, chaque côte, pour voir comment la viande est tendre. Bon, maintenant, toi, reine d'Angleterre, tu ne peux pas manger ça parce que tu n'as plus le goût de manger ça. Qui est triste entre toi et moi? Qui n'a que mon camembert, mon pain, mais avec un bon café? C'est toi qui es triste. Parce que moi, je peux manger du jambon. Toi, tu n'as pas... Vous savez qu'est-ce qu'elle mangeait le matin? Du thé avec des biscottes. Toi, reine d'Angleterre. Mais à quoi ça sert d'être reine d'Angleterre si on ne mange que des biscottes et du thé? Qui souffre? Qu'est-ce que le monde propose? Rien du tout. Mais nous, Dieu nous propose l'appétit. Tu es là vraiment face à un poisson. Tu manges bien. Jus d'orange, mais non, les autres n'ont plus ça. Les riches de ce monde, ils cherchent quoi? La cocaïne. L'héroïne. Tu te dis, mais à quoi sert d'être riche si c'est la cocaïne que tu cherches? Vous voyez, le monde ne propose rien du tout. Le monde ne donne pas de salaire. Donc, pourquoi j'aurais honte de tout ça? J'aurais honte de mon Dieu. Quand je vois ce que le monde propose, moi, je n'ai pas honte. Et de, oh, mais c'est vraiment zéro le monde. Le monde propose l'esclavage. L'esclavage. Tu deviens esclave des montres. Par exemple, il y a des gens qui ont peut-être 75 montres, Breitling, Rolex. Mais comment tu peux? Est-ce qu'un homme peut, même s'il doit s'habiller en montre, il ne peut pas mettre les 75 montres? Il ne peut pas mettre une montre autour de son ventre, quand même. Vous voyez, vanité des vanités, tout est vanité. Si encore le monde, vous savez, moi je dis souvent, si encore le monde nous proposait une éternité dans les boîtes de nuit, une éternité dans les restaurants là qu'on voit où on sort le rib, la côte, mais on hésiterait un peu, même si on choisirait quand même Dieu parce que la vérité est belle. Voilà. Mais ça donne un peu d'hésitation quand même. Oh, donc là-bas, il y a l'éternité dans ce restaurant-là, comme tu veux. la bière comme tu veux. Donc ça ne va pas s'arrêter. Oh. Mais de l'autre côté, il y a l'amour, la paix, la joie. Tu pourras nager sans te noyer. Il y a des fleuves de jus d'orange, tout ça. Tu as quand même, tu prends un peu de temps pour choisir. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il y a même pas, je ne prends même pas une demi-seconde pour choisir. Je choisis Dieu très vite. Parce que quand je vois ce que le monde donne, c'est rien du tout. Il te donne la convoitise et il te rend esclave. Tu deviens esclave. Telle chose sort, tu dois l'avoir. Tu vois quelqu'un d'autre avec quelque chose que tu n'as pas. Tu tombes dans la jalousie. Le monde te rend fou. C'est pourquoi ils se suicident. C'est pourquoi ils prennent des drogues. Parce que le monde rend fou. Donc, je n'y a même pas hésité une seule seconde à choisir Dieu. C'est pourquoi le frère Paul a dit, comment les gens peuvent rater un si grand salut? Jésus dit à la femme samaritaine, l'eau que moi je veux, si tu savais à qui tu avais affaire, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et l'eau que moi j'allais te donner, je vais te donner, c'est une eau qui deviendra en toi, voilà, une source qui jaillira éternellement. Jésus dit, Salomon avait tous les beaux vêtements du monde. Salomon avait tout le succès à partir de sa sagesse. Mais ici, il y a plus que Salomon. Que lui, il est plus que Salomon. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous allons choisir? Qu'est-ce que nous avons plutôt à avoir honte d'un tel maître qui a dit à un mort? Vous savez, ça faisait 4 jours que Lazare était mort. 4 jours. Jésus se présente. Il dit, Lazare, sors! Lazare retrouve la vie, sort. Bien-aimé, est-ce qu'il y a encore une hésitation? C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas mangé la parole. Nous n'avons pas compris à qui nous avons affaire. C'est pourquoi nous nous comportons comme des sauterelles, comme des tortues. Non. Saisissons à qui nous avons affaire. Qu'est-ce que le monde donne? L'euthanasie. La mutilation. Est-ce que vous vous rendez compte? On mutile des gens qui se transforment, qui passent d'homme à femme. C'est de la mutilation. Et inversement, c'est de la mutilation. C'est ce que le monde propose. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Voilà ce que Jésus propose. Pas d'incision, imposition des mains. Pas de transfusion, imposition des mains. Ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Sur le net, sur YouTube, il y a l'histoire d'un missionnaire en Nouvelle-Papouasie. Il arrive là, il y a un homme qui faisait la terreur dans la région, un magicien violent. Il arrive avec son couteau pour impressionner les missionnaires. Il dit, l'esprit qui est en moi me demande de te tuer. Le missionnaire dit, mais l'esprit aussi qui est en moi ne te laissera pas faire. Ah, ben, vous savez, le démon qui était dans l'autre a dit, j'ai reçu l'ordre de m'en aller. Fuite, poudre d'escampette. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous prendrons des breuvages mortels, rien ne nous arrivera. Voilà ce que Jésus nous propose. Bien-aimés, comment avoir honte de cela? Ressaisissons-nous. Nous lisons donc Marc 2, hein? Marc 2, 1 à 12. Notre propre Seigneur est passé par là. Allez voir comment il a répondu. Il est passé par la résistance, la moquerie des gens. Vous savez, quand il a ressuscité la fille de Jairus, Jésus dit, elle dort. Les gens se sont moqués de lui en disant, oh, cet homme ne connaît rien du tout. Il ne sait même pas reconnaître quand quelqu'un est mort. Et on dit qu'il est prophète, c'est quoi ça? Ils ont rigolé, parlé. Nous avons tous vécu. Il a vécu cela, plus que nous tous. Nous, on pense vivre des difficultés, mais lui, il a vécu plus que nous tous, de loin. Mais comment il a tranché l'affaire? Il a dit, jeune fille, lève-toi. La jeune fille est ressuscitée, c'est fini. Qui va parler encore? Qui va parler? Marc 2, 1 à 12.
Quelques jours après, Jésus revint de Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons rien vu de pareil.
Amen, amen, amen. Voilà, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, les gens disent, oh, c'est n'importe quoi. Jésus dit, ah bon, vous allez savoir vraiment qui je suis. Qu'est-ce qui est plus difficile? Une simple phrase, tes péchés sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche, alors quelqu'un est paralytique. Certainement, ce qui est plus difficile, c'est de dire lève-toi et marche, puisque les gens vont observer que ça soit complice. Et Jésus dit, ben, afin que vous sachiez que j'ai aussi le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Bien-aimé, ça, c'est ça qui doit, que doit, que, c'est comme cela que doit être notre vie. Notre vie doit être semblable à celle du Seigneur. C'est pourquoi il nous a laissé son esprit qui va être en nous pour que chacune de nos vies soit semblable à sa vie, à lui. Les gens vont parler, ils vont résister, ils vont se moquer. Nous allons manifester la gloire de Dieu. C'est ça qui doit se passer. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons être plus près de lui afin d'expérimenter sa gloire. Séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Être à fond avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Le prendre comme une sorte de ticket qu'on a dans notre poche pour le ciel et vouloir que sa gloire se manifeste, ça ne va pas marcher. C'est quand on est à fond avec lui. Quand on l'intègre, quand on le mange, là, oui, sa gloire peut se manifester également à fond. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous ne sommes pas à fond. Le Seigneur nous appelle à nous réveiller, à recevoir un front en diamant, à être à 100% dedans. Et nous verrons comment il nous défendra et se défendra. Non, il se défendra et nous défendra. Comme Élie avait dit à Dieu, mais tu vois, les gens, ils se moquent de toi, tout le peuple se moque de toi. et moi je leur annonce qui tu es, ils polémiquent. Seigneur, envoie le feu, que ça consume ce sacrifice, afin que ces gens-là sachent que je suis ton serviteur et que toi tu es grand. Et le feu est venu du ciel, a consumé le sacrifice, alors que les prêtres satanistes ne sont pas arrivés à faire sortir le feu. Bien-aimé, Daniel à Babylone et ses amis, ils étaient comme vaincus, mais ils ont dit non, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Et le Seigneur a démontré sa puissance ce jour-là. Nous n'allons pas manger les mets du roi, les repas du roi, nous allons manger nos repas à nous, même s'ils sont simples. Et nous pensons que notre santé sera meilleure à celle des gens qui mangent les repas du roi, qui sont censés donner une meilleure santé. Mais la source de la santé, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. C'est des gens qui étaient à fond. Mais pourtant, ils étaient très jeunes. Ils étaient jeunes. Ce n'étaient pas des vieux. Il est dit d'eux qu'ils étaient des jeunes hommes, des jeunes hommes beaux. Ils n'ont pas utilisé leur beauté pour servir le monde. Parce qu'ils savaient que le monde ne donne pas de salaire. Le monde te trahit, il t'enfonce dans quelque chose. On a vu comment la carrière de Laure Manaudou s'était arrêtée. Au lieu de se concentrer sur son sport, elle a voulu sortir avec un garçon voyou et ça s'est mal terminé, carrière par terre. Le monde te détruira. Le monde est méchant parce que Satan est derrière le monde. 1 Jean 5, 19 le dit, ce monde gît sous la domination de Satan. Si encore le monde proposait quelques bonnes choses, on réfléchirait à la question. Mais non, il ne propose que le mensonge, une apparence pour attirer et pour tuer par la suite. Les gens qui ont choisi le monde avant nous, nous avons vu leur fin. Qu'est-ce qu'il y a à imiter? Ça met nous. Même ceux qui ne font pas forcément le mal, mais qui sont devenus... Je voyais un monsieur hier, c'était comme si sa vie, c'était soigner les forêts. Donc sa vie, c'est soigner les arbres, soigner les forêts. Mais bien aimé, il faut savoir que les forêts n'existent pas d'aujourd'hui. Les forêts existent depuis Adam et Ève, depuis... Ça continuera toujours à exister. Vous voyez quelqu'un comme ça, sa vie c'est les forêts. Et le jour où il va se retrouver dans une maison de retraite, plus de forêts, son monde s'écroule. Mais nous, nous avons Dieu. Où que nous soyons, il est là. Que ce soit en prison, il sera là, à l'hôpital, il est là, on est bien. Mais la forêt ne peut pas te suivre partout. Voilà ce que le monde propose, bien aimé. Le monde ne peut pas être comparé à celui qui propose le pardon des péchés. Celui qui propose la vie nouvelle, la vie éternelle, la sécurité des anges, la sécurité du Saint-Esprit, la conduite par... Voilà tout ce que Jésus propose. Et plus que... Et de surcroît, il te dit qu'il t'aime au point de donner sa vie pour toi. Chez qui tu vas entendre cette phrase-là? Je t'aime au point de donner ma vie pour toi. Chez qui? Maintenant, il se trouve que celui qui dit « Je t'aime au point de donner ma vie pour toi », c'est en plus encore ton créateur, le créateur de l'univers. Mais comment hésiter devant un tel avantage? Recevons bien-aimés le fond en diamant et vivons librement au nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans 2 Rois, puisqu'on n'a plus le temps, dans 2 Rois chapitre 5, il y a un général syrien qui était lépreux, mais qui s'appelait Naaman, il avait une domestique juive, une petite fille, une jeune fille plutôt, qui dit à sa patronne, mais si le patron pouvait aller en Israël, là-bas il y a un prophète qui peut le guérir, qui pourrait le guérir. La patronne dit à son mari, mais il paraît qu'en Israël, quelqu'un peut faire quelque chose pour que tu sois guéri de la lèpre. Vous voyez, cet homme-là, c'était le général de l'armée de Syrie, un homme puissant, important et ami du roi, puissant, riche et ami du roi, second du roi. Quand le roi allait dans les cérémonies, c'est lui qui tenait le bras du roi, second du roi. Mais il avait la lèpre. Vous voyez le monde, hein? Tu as tout, mais la lèpre vient tout gâcher. Le monde te donnera toujours un grain de sable. Dans tout ce que tu feras, il y aura un grain de sable. Ça vient tout gâcher. Mais Dieu nous propose la vie en abondance. La vie en... Puisque, vous savez pourquoi c'est la vie en abondance et que c'est la vie la plus heureuse? Parce que c'est une vie qui se repose sur Dieu lui-même. Or, Dieu en lui, il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que gloire. Donc, quand ta vie maintenant est dans sa vie à lui, Jésus dit, vous comprendrez quand le Saint-Esprit viendra que vous êtes en moi, moi je suis en vous. Donc, quand tu es dans Dieu, ben, il n'y a pas d'erreur. Mais dans le monde, il y aura toujours une erreur. Dans quoi que ce soit que tu fasses, nous, on peut voir le monsieur Nadal gagner des titres. Mais il gagne des titres au prix de quoi? Des piqûres antidouleurs dans la cheville ou dans le genou, j'ai oublié. Pendant que toi, tu marches tranquillement. Mais lui, il a des douleurs atroces parce qu'il a trop joué. Et le général, qui avait tout, se retrouve avec la lèpre. Comment expliquer? C'est le monde. Il y aura toujours un déchet quelque part. C'est le monde. Le péché a fait ainsi. Et lorsqu'il décide d'aller en Israël, avec la lettre du roi, auprès du roi d'Israël, le roi d'Israël joue aux chrétiens d'aujourd'hui, à la tortue, à la sauterelle. Il dit, mais non, qu'est-ce que nous on peut faire? Comment il vient ici pour être guéri? Il commence à trembler. Tout ça, il veut nous créer des problèmes. On va faire comment? Est-ce que nous, on a le pouvoir de guérir les gens ici? Le prophète Élisée apprend que son roi est en train de trembler. Il envoie un messager dire au roi, arrête de trembler, envoyez-moi cet homme. C'est ça le chrétien au front de diamant. Envoyez-moi cet homme. Arrêtez de trembler. C'est ce que nous on dit aujourd'hui. Envoyez-nous la crise. Les gens sauront que Dieu donne la nourriture. Il donne l'essence, il donne tout. Envoyez-nous. Envoyez-moi cet homme-là. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Sous-entendu, il saura qu'il y a le véritable Dieu en Israël. D'ailleurs, on va lire juste le verset 15, frère Ado. L'homme est venu. Le prophète lui a démontré que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël, et il a été guéri. Bien-aimé, c'est ça qui nous manque. Il nous manque la gloire de Dieu. Il nous manque d'être à fond avec Dieu. Il nous manque nous-mêmes d'être heureux avec Dieu, d'être à l'aise. Au fait, il y en a qui sont avec Dieu comme par contrainte, par la peur de ne pas aller en enfer. Mais non, il faut toi-même expérimenter la gloire de Dieu, la paix, la joie. C'est là que tu auras un front en diamant. Oui.
Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. »
Et il n'a pas accepté ce présent-là parce qu'il a considéré que ce n'est pas lui qui a guéri Naaman, c'est Dieu qui l'a guéri. Lui n'a pas reçu le cadeau, un cadeau lié à une guérison que lui n'a pas produite. C'est Dieu qui a guéri. Et ça a montré aussi l'honneur de Dieu qui n'a pas besoin de l'argent d'un étranger. Voilà. Et Naaman reconnut que le véritable Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Pourtant, quand on lui avait dit d'aller se laver 7 fois, il avait boudé en disant, il y a des plus belles rivières dans son pays d'origine, des plus beaux fleuves. Pourquoi aller se laver 7 fois dans le Jourdain avec de l'eau boueuse? Sauf que ça, c'est le fleuve de Dieu. C'est ça la différence. Et là, il a reconnu ça. Bien-aimé, n'ayons pas peur de la difficulté. Face à la difficulté, disons, envoyé. Pendant que eux ils envoient, toi tu te tournes vers Dieu, viens Seigneur. Et toi tu sors du problème. Tu mets le problème entre Dieu. Tu sors du problème, le problème va affronter Dieu lui-même. Voilà. C'est tout, bien-aimé, c'est tout. Je vais clôturer avec ce verset. Je vais le lire debout, de mon ami Paul. Romains, chapitre 1er, 1 à 16. Romains 1, 16 à 17. Le frère Paul dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, est révélée la justice de Dieu par la foi. Il suffit de croire pour recevoir le salut. Il suffit de croire pour être considéré juste. Mais c'est magnifique, c'est gratuit, c'est extraordinaire. Où est-ce qu'on trouvera quelque chose de si grand et de gratuit? Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. En croyant en ce que Jésus a fait, on est qualifié pour le ciel. En croyant en ce que Jésus a fait, on devient enfant de Dieu. Donc c'est Jésus qui a fait tout pour nous. Où est-ce que tu vas trouver un salut pareil? Partout, on nous demande de faire des performances. Partout, dans tout ce qu'on fait. Et là, on te dit, crois, il l'a fait pour toi. C'est ça. Paul dit, et moi j'aurais honte d'un tel cadeau. Voilà. Soyons sérieux. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. En lui est révélée la vie éternelle par Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est venu sur terre. Il a pris tous nos péchés sur lui. Il a combattu à la croix toutes les forces des ténèbres en notre faveur. Et il est ressuscité le troisième jour. C'est ça l'évangile. Du coup, quiconque croit a un petit séjour encore à passer sur terre pour glorifier Dieu et passer l'évangile à d'autres. Mais il y a des demeures qui l'attendent au ciel. La gloire de Dieu est là, depuis sur terre et jusqu'au ciel. Il a dit, le Saint-Esprit sera en vous et demeurera éternellement avec vous. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous donnes un front en diamant par rapport aux oppositions d'aujourd'hui, aux pressions d'aujourd'hui, les pressions sur le LGBT, pressions sur l'écologie, pressions sur le végétarisme, pressions sur l'œcuménisme, toutes ces pressions démoniaques, les pressions sur la sorcellerie, Harry Potter. Seigneur, donne-nous un front en diamant. Un front en diamant pour résister au rap chrétien, résister au mélange dans le christianisme, refuser les mélanges, garder l'évangile authentique, l'évangile qu'a prêché, qu'ont prêché Jésus lui-même et les apôtres. Ô Seigneur, que nous ayons un fond en diamant. Pourquoi? Que ce qui est écrit, c'est ça, que ça la vérité. Ce n'est pas un prophète qui serait la vérité, ni un livre quelconque, ni un message quelconque. Mais c'est les Écritures, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le front en diamant. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Alléluia.